Nous prierons tout de même, même si nous avons déjà prié dans ce chant que nous venons de chanter, avant d'ouvrir la Bible, avant de méditer la parole de Dieu. Oui Seigneur, ouvre nos oreilles et nous entendrons. Et peut-être pourrions-nous rajouter un couplet dans ce chant, ouvre nos esprits et nous recevrons le tien, ton Saint-Esprit Seigneur, sans lequel nous, toute parole peut-être tordue, sans aucun sens. Oui, nous savons, Seigneur, que grâce à ton Saint-Esprit, il y a toujours une révélation dans ta parole pour chacune, tous ceux qui veulent ouvrir leur cœur à ta parole. Alors bénis cette lecture et bénis cette méditation. Amen. Alors, tout d'abord, un petit préambule avant de méditer la parole de Dieu. Je vous avais il y a quelque temps déjà indiqué que notre Église, notre union d'Église, plus précisément la coordination édification, a souhaité, a décidé pour cette année 2021, chaque mois, d'adresser à toutes les églises qui composent l'union ce qu'ils appellent une lettre aux églises. Alors on la trouve, cette lettre, donc chaque mois, on la trouve sur le site de l'UNEPREF, avec toutes sortes de matériel pour... voilà. Et puis on la trouve également dans le journal Nuance, en annexe, pour ceux qui sont abonnés. Donc chaque mois, nous avons un thème, un sujet, qui en général, ça va être certainement à chaque fois un sujet qui... en relation avec les fondamentaux de notre foi, hein. Donc quelque chose de, pas du détail, je veux dire vraiment les fondamentaux de notre foi, plus un commentaire qui a été élaboré par un théologien, alors ce mois-ci, c'était celui du mois de janvier, c'est Donald Cobb, c'est un professeur de théologie du Nouveau Testament à Aix-en-Provence, tu le connais donc, Saint-Denis, qui visiblement est une pointure, alors c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais qui a vraiment fait un travail remarquable. Et donc chaque mois, eh bien, voilà, on aura ce matériel. Alors, ce qui était proposé par l'UNEPREF, c'est que ce sujet soit animé sous forme de débat. Et comme je vous l'ai dit l'autre fois, je trouve ça un petit peu incongru, parce qu'en ce moment, les débats, c'est pas facile à organiser, c'est pas très... Alors par Zoom, ça manque un peu de... Bon, bref. On a suffisamment de réunions Zoom, je trouve. Alors j'ai eu l'idée, de vous présenter cette magnifique opportunité de méditation sous forme de la prédication, tout simplement du dimanche. Hein. Alors une fois par mois, on aura la lettre aux églises, mais sous forme de prédication. Alors, ce mois de janvier, le titre, c'est... Je vous le lis tel qu'il est. Que ton règne vienne, un mot d'ordre pour la vie chrétienne, point d'interrogation. Vous voyez que c'est un sujet fondamental. Hein. Alors effectivement, que ton règne vienne, on lit ça dans Matthieu chapitre 6. On peut lire ces versets, alors que pour le coup vous connaissez par cœur, c'est pas une image, puisqu'on le récite tous les dimanches au moins. Donc Matthieu 6, versets 9 et 10. « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Bon, premier texte très connu, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, je crois, dans ces deux versets, ou plus exactement, dans ce début de cette prière que Jésus enseigne à ses disciples et nous enseigne, c'est que les trois premières demandes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, elles sont tournées vers Dieu lui-même et non pas vers nous. Alors par la suite de la prière, il y a bon, sur le pain quotidien, on a besoin d'être délivré du mal, d'être pardonné de nos offenses, etc. Donc c'est nous. Mais encore une fois, les trois premières demandes sont tournées vers le Père. Donc on demande pour lui. On demande la sanctification de son nom, l'arrivée de son règne et que sa volonté soit faite. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je crois tout simplement que ça veut dire que c'est certainement même pour nous, chrétiens, ce qu'il y a de plus important dans notre vie, c'est que le règne de Dieu s'établisse, s'accomplisse. Alors, je parle du règne. Il est encadré, hein, donc que ton règne vienne, cette demande est encadrée par que ton nom soit sanctifié, et puis par après, c'est que ta volonté soit faite. Tout ça, ça se rejoint. C'est-à-dire que ton règne s'établisse sur notre terre, comme au ciel, etc. Et donc, encore une fois, oui, on voit là l'importance majeure, capitale, et qui domine toutes les autres, tout le reste, que ce règne de Dieu arrive. Seulement, voilà, qu'est-ce que ça signifie? Quand on demande à Dieu que ton règne vienne, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on demande vraiment? Alors, il faut préciser également que si cette demande est extrêmement importante, on en a un deuxième indice, c'est que Jésus, par rapport au royaume de Dieu, il n'a que ça à annoncer, finalement. Si vous regardez l'ensemble des évangiles, il ne parle que du royaume des cieux. Petite précision, il est question parfois dans nos Bibles du royaume des cieux, et puis par ailleurs du règne de Dieu. Alors en réalité, il n'y a, paraît-il, dans le texte grec d'origine, il n'y a qu'un seul terme, hein, basileia, qui veut dire à la fois royaume et règne. Alors dans les Bibles, dans nos Bibles, c'est traduit parfois royaume et parfois règne, simplement pour apporter des nuances, hein, mais c'est la même chose, on est d'accord, hein, quand on parle du... Alors par ailleurs, Jésus parle aussi du royaume des cieux. Alors ça, c'est une tradition juive qui vise à éviter l'abus du nom de Dieu, de faire un usage abusif du nom de Dieu. Hein, voilà pour les détails, la petite précision. Donc un seul terme, basileia, que ton règne vienne, que ton royaume s'établisse. Oui, qu'est-ce qu'on demande à travers cette triple demande, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors il faut d'abord s'entendre sur qu'est-ce qu'on comprend par royaume. Quand on évoque un royaume, dans nos esprits, on a tout de suite une notion de territoire. Un territoire bien défini. Hein, on parle par exemple du royaume du Danemark, le royaume du Maroc, le Royaume-Uni, on parle beaucoup en ce moment. Alors dans notre idée, c'est oui un territoire avec des frontières bien définies, avec qui en général comprend une nation bien définie. Mais je crois qu'au sens biblique, eh bien, il faut sortir un peu de cette notion. Alors Jésus lui-même nous donne, dans un passage qu'on va lire, nous donne une explication sur quel est ce royaume en question. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, verset 20. Alors, c'est 20 et 21, hein, deux petits versets. Alors, je vous le lis, Luc 17, 20 et 21. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ah, alors voilà quelque chose qui... n'est pas forcément facile à appréhender. Le royaume, nous, on voit tout de suite un territoire, et là, Jésus dit, le royaume, il est au-dedans de vous. Donc, c'est déjà une première chose à bien retenir. Le royaume est... Alors, il y a certaines traductions qui disent, le royaume est parmi vous. C'est également une traduction possible. Hein. Bon, on retient ça. Et puis, quand on parle, dans un deuxième temps, on parle du règne de Dieu. Alors, qu'est-ce qui définit un règne? Eh bien... Là aussi, Jésus nous apporte une explication, mais alors là, qui est un petit peu plus compliquée, mais qui est quand même claire, vous allez voir. Quand on parle de règne, on ne voit plus du tout un territoire, mais on voit donc un roi, c'est-à-dire l'action d'un roi, ou le temps, une période, le temps de règne d'un roi. Hein, on va parler de tel roi qui a régné de telle à telle date. Parfois, c'est le roi d'une ville, le roi de Naples, le roi... Alors, on voit une... comment dire, une action, qu'est-ce qu'il a fait pendant son règne, comment il a pris le pouvoir, comment il a eu le pouvoir, etc. Avec le règne de Dieu, on a quelque chose d'un petit peu différent. Alors, on trouve une explication très intéressante, toujours de la bouche de Jésus, dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, à partir du verset 20. Matthieu 20, 20. Alors, je vous le lis. Alors, la mère des fils de Zébédée, les fils de Zébédée, c'est donc Jacques et Jean, sauf erreur. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous me demandez. » Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Je me mets un tout petit peu à la place des disciples quand ils ont entendu ça. S'ils étaient assis, ils ont dû dégringoler de leur chaise. Parce que, quel est le champ de référence des disciples quand on leur parle d'un règne ? Déjà, le royaume, ils imaginent comme nous un territoire. Bon, alors déjà, ils ont dû être surpris quand Jésus leur a dit il est dans vos cœurs, le royaume. Le règne. Alors, ils imaginent que leur champ de référence, c'est quoi ? C'est les despotes, parce que tous les rois de l'époque étaient plus ou moins des tyrans, on va dire ce qui est. Pas des tendres à l'époque, il s'agissait de filets doux. Les rébellions étaient réprimées dans le sang, etc. Donc déjà, un despote auquel il faut être absolument soumis. Des tyrans, qui s'attirent vers eux tous les honneurs, toute la gloire, qui rejoignent un peu les divinités, vous voyez, comme il peut y avoir dans toutes sortes de civilisations à l'époque, dans l'Antiquité. Parfois, ils se laissaient volontiers confondre avec les divinités. Donc, vous voyez, le sommet de la gloire et de l'honneur était pour eux. Et puis là, Jésus leur dit... précisons que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, se disent, pour eux, c'est clair, Jésus, il se proclame roi. Donc ça veut dire certainement qu'il va récupérer le trône de Jérusalem, il va mettre Hérode à la porte, il va peut-être lever une armée, et surtout il va flanquer les Romains à la mer, il va les repousser dans leur pays au moins. Et puis, les fils de Zébédée, eux, ils voient, même l'ensemble des disciples, ils voient la royauté de Jésus comme un pouvoir politique, ils ne peuvent pas voir autre chose, puisqu'ils sont formatés pour ça, un pouvoir politique. Alors pourquoi pas Jésus, s'il est roi comme ça, il aura besoin d'un premier ministre, pour être Jacques, et puis d'un ministre de l'armée, je ne sais pas, ou de la défense ou de l'intérieur, ce sera Jean. Vous voyez tout de suite le petit calcul, ils se disent, après tout on est les disciples, alors à nous les premières places. Et puis alors là, Jésus démolit complètement leur imagination du royaume qu'il veut mettre en place, puisque qu'est-ce qu'il annonce ? Il annonce que désormais, si ceux qui veulent être des grands dans ce royaume doivent se faire les serviteurs, et puis même il utilise le mot l'esclave, les esclaves de leurs frères. Ah, bizarre. Jésus prône pour son royaume l'humilité et le don de soi et le service aux autres. Et puis par ailleurs, il prône aussi l'amour. Bref, tout ce qui n'existe pas dans des royaumes ordinaires, habituels, surtout les royaumes tels qu'ils étaient dans l'Antiquité. Surprenant, surprenant. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner ce royaume, cette façon de régner. C'est-à-dire qu'il s'est mis lui-même en parfait exemple. Alors je disais donc qu'il y a l'humilité, le don de soi, puis plus globalement l'amour. Eh bien effectivement, question humilité, regardez Jésus dès sa naissance. Dès sa naissance, il a quelques heures, il est couché dans une mangeoire pour animaux, d'une crèche. Alors, une crèche, on met les enfants à la crèche de 2 jours. Alors, ça représente plus. Non, une crèche, c'est une mangeoire. Hein, c'est-à-dire un truc bricolé pour que les bêtes viennent manger leur foin, quoi. Ouais. Vous voyez, l'humilité de Jésus, elle se déclare déjà dès sa naissance, et puis pendant toute sa vie sur terre, humilité, humilité, humilité. Le service aux autres. Alors, Jésus se donne complètement aux autres, à ses frères, aux humains. Il y a un passage où c'est surtout sur le plan symbolique, mais c'est quand même un moment très fort, c'est le moment où il lave les pieds de ses disciples, n'est-ce pas ? Donc, tout ça pour dire que Jésus ne se contente pas d'enseigner les choses, il les pratique. Et puis, pour ce qui est du don de soi, est-il besoin de rappeler le sacrifice ultime, où là, il donne sa vie, et quand je parlais de l'amour aussi, qui est plus globalement, il va jusqu'à pardonner en direct à ceux qui sont en train de le crucifier. Voilà le royaume de Dieu, voilà le règne de Dieu. Le règne qui a donné à Jésus, donc offert au Christ. Le problème, c'est que Jésus, il a fait qu'un petit passage éclair sur la terre. Une trentaine d'années, 33, 34, 35 ans, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, donc 3 ans de ministère. Et puis après, il est remonté, retrouver le Père. Alors, comment s'établit désormais depuis 2000 ans hein, effectivement, Jésus nous a apporté le royaume. D'ailleurs, si vous regardez bien, dans les tout premiers mots que les évangélistes font dire à Jésus dans sa prédication, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. » Très bien. Mais une fois qu'il est reparti au ciel, qu'en est-il ? Eh bien, la solution, on l'a dans ce petit texte de Matthieu, où Jésus enseigne à ses disciples de prendre la relève. À vous maintenant, moi je vais partir, je vais remonter, retrouver le Père, à vous maintenant de continuer à établir le royaume de Dieu, le règne de Dieu sur terre. Comment ? Eh bien, à mon imitation, dit Jésus, comme je l'ai fait, aimez votre prochain, donnez-vous le don de vous-même pour les autres, soyez humbles, etc., etc. Et tous ces enseignements, on les médite à longueur d'année dans nos réunions bibliques, dans nos prédications, dans nos lectures de la Bible, tout ce qui en découle. Mais je précise bien, il y a cette base, moi je la résume en 3 choses, oui c'est ça, c'est humilité, don de soi et amour. Parce qu'on peut se donner, quoique, oui, le don de soi il implique forcément l'humilité et l'amour. Hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte à la fois de la chance, de la façon extraordinaire que nous avons, que le Dieu nous donne, de pouvoir décider d'établir son règne ? Alors, peut-être pas sur toute la terre, parce que oui, bien sûr que le jour du jugement dernier, à la fin du monde, alors là, on sait que Jésus viendra, et toute langue confessera, tout genou fléchira, etc. Donc le monde entier, il sera pleinement, sa royauté sera pleine, son règne sera parfait, absolu, sur toute la création. Mais à l'heure actuelle, on se dit, oh là, mais le règne de Dieu, on ne le voit pas franchement. Tout à l'heure, Héloïse a évoqué les horreurs qu'on peut trouver dans les actualités, dans les journaux, à la télé, etc. Où est-ce qu'il est, le règne de Dieu ? Oui, c'est clair. Le règne de Dieu n'est pas total et absolu sur la terre. Mais par contre, si chaque chrétien, même s'ils ne sont pas encore forcément très nombreux, si chaque chrétien dans son coin établit son petit coin de règne de Dieu, eh bien tout doucement, ce royaume arrive, s'installe, s'affirme. Alors, je suis moi personnellement très impressionné en découvrant ce sujet, en travaillant sur ce thème, que Dieu nous ait confié le soin d'établir son royaume. Et je me dis, c'est formidable. Chaque fois qu'un chrétien aime son frère, sa sœur, son prochain, son voisin, son collègue, chaque fois qu'un chrétien pardonne à son frère, chaque fois qu'un chrétien s'offre en service pour la communauté, pour quelqu'un qui souffre, pour quelqu'un qui a des besoins, eh bien, c'est une petite partie du royaume de Dieu qu'il installe. Merveille, merveille. Et je serais quand même très incomplet si je ne parlais pas maintenant de l'Église. L'Église qui est, par définition, la communauté des chrétiens. Dans ce cadre, dans cette réflexion, eh bien, je me dis, mais l'Église, c'est un peu le... Comment on va dire ? Dans le document, ils disent l'Église doit être l'avant-poste du royaume de Dieu. L'avant-poste, c'est un peu curieux. Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas d'expression, je dirais, la villa témoin. Vous savez, bon, quand on va acheter, il existe des villages où c'est des villas témoins. Chaque constructeur construit une maison pour montrer son savoir-faire. Ben, l'Église, c'est la villa témoin du royaume de Dieu. C'est-à-dire que si seulement, bien sûr, les membres de cette Église, avec un grand E, c'est-à-dire le corps de Christ, l'ensemble des chrétiens, si seulement chaque membre veut se donner la peine d'appliquer l'enseignement du Christ, humilité, don de soi, service des autres, amour du prochain, amour de Dieu aussi, bien sûr, eh bien, tout d'un coup, cette Église devient, ça y est, un petit reflet du royaume de Dieu. Et donc, à ce titre, elle peut générer de l'espérance. Alors, elle va générer, bien sûr, un attrait. Les gens vont se dire, mais il se passe quelque chose dans ce milieu, il se passe quelque chose qui remplit le vide de ma vie, là. Il se passe quelque chose... qui me donne faim de savoir, d'apprendre. Et voilà le rôle de l'Église. Nous l'avons heureusement réalisé déjà il y a quelques années en se disant, maintenant il faut annoncer l'Évangile. Mais pourquoi ? Tout simplement pour que nous fassions notre petite part dans ce monde en ce qui concerne l'établissement du règne de Dieu sur terre. Alors on va pas aller chercher la Chine, ou le fin fond de l'Afrique ou de l'Amérique, on va déjà sur terre établir, nous avons le pouvoir, mes frères et sœurs, d'établir le règne de Dieu à terre et les environs. Allez, jusqu'à le zoo. Je n'ai pas oublié le zoo. Et les Sarri. Paradia. Mais le zoo, c'est quand même la ville. Le zoo, c'est quand même la ville que le monde entier nous envie, donc il fallait que tout le monde. Voilà. Le document de Donald Cobb parlait également d'un équilibre entre la foi au présent et l'espérance qui vise plutôt le futur. Alors ça, c'est, je vais l'évoquer, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais effectivement, on pourrait être tenté de voir le règne de Dieu uniquement sur le plan de l'espérance. C'est-à-dire le règne de Dieu, c'est quand, au jugement dernier, quand le Christ sera revenu. Et c'est vrai que c'est une espérance fantastique. On ne souffrira plus, on ne vieillira plus, on n'aura plus de maladie, on n'aura plus la mort, on n'aura plus le péché, on n'aura plus de violence. Vous vous rendez compte, ça, c'est une espérance phénoménale, mais on a trop facilement tendance à la voir dans le futur. Après notre mort, à la fin des temps, enfin à la fin du monde. Mais ce que Jésus nous apprend ici, c'est que la foi au présent, elle vise aussi le règne de Dieu. C'est pas le règne, c'est pas pour plus tard, c'est pas pour après la mort, c'est pas pour... C'est pour aujourd'hui, c'est pour tout de suite. Et donc, vous voyez, il y a une sorte d'équilibre. Oui, il faut nourrir, vivre, je veux dire, il faut vivre d'espérance. L'apôtre Paul se répand dans toutes les épîtres pour expliquer que cette espérance, elle nous tient, elle est... Mais attention, cette espérance ne doit pas être tournée uniquement vers le futur. Il ne faut pas négliger non plus la foi au présent. Et notre foi, eh bien, c'est de dire oui, aujourd'hui, pas dans X années ou dans le jour où tu décideras de revenir. Aujourd'hui, maintenant, que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié. Viens, Seigneur Jésus, maintenant. Où ? Ben, dans ton royaume, il est où ? Rappelez-vous, dans nos cœurs. Viens maintenant dans nos cœurs, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi et nous t'aimons tant. que ton règne vienne. Amen.
Amen.